Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Dumondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
En période hivernale, les routes deviennent impraticables au Mali. À Bamako, la circulation est difficile et la ville est confrontée à d'énormes difficultés, notamment la dégradation de certaines routes. Une situation qui provoque des accidents et d'autres problèmes liés à la dégradation de l'environnement. Les usagers expriment leur colère et interpellent les autorités. Nos invités sur ce plateau, Al-Maimoun Meiga, directeur du service des données routières, Mokhtar Moussa Touré, président de l'association Siraba Lakana, Moussa Sidibé, chercheur au centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale, CRAPESA. Je suis Fatmata Togola.
Le Grand Dialogue.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous parlons de la dégradation des routes qui fait révolter les usagers à cause des accidents et autres problèmes liés à la dégradation de l'environnement. Qu'est-ce qui explique ce phénomène selon vous, Monsieur Meiga? Allô, Monsieur Meiga?
Allô, oui.
Oui, vous m'entendez bien?
Moi, c'est Monsieur Sidibé. Je ne sais pas si vous vous adressez à moi ou à Monsieur Meiga.
Monsieur Meiga, Monsieur Sidibé, Moussa Sidibé, chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale?
Oui, parfait.
D'accord. Alors, Monsieur Sidibé, selon vous, qu'est-ce qui explique ce phénomène?
Bah, le phénomène s'expliquerait le plus largement par une capacité de nos
Monsieur Sidibé, nous allons revenir à vous. Apparemment, le réseau ne passe pas bien. Alors, Monsieur Touré, selon vous, qu'est-ce qui explique ce phénomène?
Merci. Je remercie d'abord le studio Tamani de nous avoir offert leur plateau pour que nous puissions nous exprimer en matière de sécurité routière. Et les accidents sont devenus des casse-têtes pour tous les Maliens et particulièrement c'est la jeunesse qui est concernée par ce phénomène et c'est dû carrément à ce manque de civisme, manque de courtoisie et c'est ce qui provoque cette indiscipline-là. Donc, les routes, quand les routes sont conçues, elles doivent être suivies quotidiennement pour que, en cas de dégradation ou qu'il y ait la dégradation, nous savons ce qui cause des dégradations, c'est des surcharges, c'est des véhicules qui se gâtent, quand en se gâtant, ils réparent le véhicule sur la route sans le dégager. C'est ce qui pose vraiment ces problèmes-là. Donc nous sommes en train de nous battre, nous, association Siraba Lakana, pour que ce comportement cesse vraiment dans notre pays, que les gens comprennent que la route coûte très 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 cher. Ce n'est pas pour l'État et c'est aussi pour les citoyens, parce que c'est les citoyens qui cotisent tous les jours pour que les routes soient.
D'accord. Alors, Monsieur Sidibé. D'accord, mais selon vous, où se situe exactement le problème? Monsieur Touré.
Le problème se situe à tous les niveaux, à ce manque d'incivisme. Les gens pensent que la route c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour nous. Si chacun pense que la route, chacun se met dans la conscience que la route c'est pour moi, si la route est bonne, c'est pour que je puisse me rendre en bonne santé et revenir en toute sécurité. Mais quand on pense que la route là c'est pour le gouvernement, c'est pas pour nous, ce phénomène là ne finit pas. Et il faut qu'on aille à la répression. Chaque fois, nous revenons sur ce mot, la répression. Pourquoi est-ce qu'on ne réprime pas? Pourquoi on ne réprime pas? C'est notre question. S'il y a la répression, on pense que tout ça, ça va cesser.
D'accord. Alors, Monsieur Meiga.
Oui, bonsoir, madame.
Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce phénomène? Qu'est-ce qui explique ces dégradations de nos routes?
Merci madame de m'avoir posé cette question qui me donne l'occasion de vous expliquer les vraies causes de dégradation des routes. Mais avant, si vous le permettez, il faut que je vous explique qu'une route est construite pour environ un certain nombre d'années. Si elle est bien entretenue, dans des bonnes conditions, que la route est construite, si je parle de bonnes conditions, en fonction d'un trafic pour une durée de vie. Et suite à ce dimensionnement dont on prend en compte, on prend l'environnement, il s'agit de l'écoulement des eaux, le problème de trafic, il s'agit des surfaces, et comme d'autres intervenants sur le plateau ont eu à vous dire, il y a des problèmes de surcharge d'insuline. Nous avons pour le cas particulier du Mali, surtout l'occupation anarchique de l'emprise de la voie. Et la voie ne se limite pas seulement à la route, mais il y a les caniveaux, plus particulièrement à Bamako, où vous voyez partout où il y a des caniveaux, les gens se permettent soit de faire des dalles pour fermer et qui font des obstructions et l'eau ne coule pas comme ça doit se faire. Et ce qui explique le problème de dégradation, surtout en période hivernale. À cela s'ajoute le déversement des ordures par la population. Là aussi, c'est un problème d'incivisme. Il y a, c'est vrai, une loi qui normalement doit permettre de réprimer, que ce soit ceux qui construisent des dalles ou ceux qui déversent des ordures.
Mais est-ce que cette loi, elle est respectée, elle est bien appliquée?
Cette loi, en fait, elle est appliquée, mais malheureusement, à un certain niveau, le problème se pose parce qu'il s'agit des questions de maître de l'ouvrage. Les routes que vous voyez à Bamako, le tout ne relève pas directement de la direction nationale des routes. Il y a des routes qui relèvent des communes qui sont normalement les maîtres de l'ouvrage. Il y a eu une classification en 2008, suivant aussi une loi qui classe certaines routes, c'est-à-dire l'ensemble du réseau routier du Mali est classé en route nationale. Là, ça relève de l'État. Les routes régionales, ça doit relever des régions. Les routes locales, des cercles, et des routes communales, des communes. Et chacun, normalement, doit pouvoir gérer son réseau.
D'accord. Alors, donc, M. Sidibé.
Oui, je suis là.
Oui. Alors, selon vous, où se situe exactement le problème concernant ce phénomène?
Je pense que le problème se situe à plusieurs niveaux. Au niveau national, d'abord, il faut parler quand même d'au-delà des efforts qui ont été fournis dernièrement par le gouvernement successif. Il y a quand même un besoin énorme qui est là, qui n'est pas totalement satisfait par les investissements qui sont faits sur les routes. Je reviens là-dessus, effectivement, l'autre intervenant, M. Maya, disait que il y a une question de trafic. Le fait que le trafic n'est pas aussi développé a pour conséquence une certaine concentration du trafic sur le fait que les zones ne soient pas développées. Ce qui fait qu'il y a une concentration de trafic sur le peu de nombre de routes qui existent, ce qui joue forcément sur l'état de nos routes, y compris bien sûr que les différents acteurs, que ce soit au niveau national, au niveau régional, au niveau local et au niveau communal, ne prennent pas complètement leur responsabilité quant à l'entretien des routes. Quand on voit souvent la route, tout le monde a tendance à penser que c'est l'entretien relève complètement du niveau national au niveau du ministère de transport. Alors que avec la classification qui a été faite par la loi, les entretiens et les doivent relever souvent de certains niveaux de responsabilité, que ce soit au niveau communal ou au niveau local. Et tous ces responsables ne faisant pas forcément face à leurs responsabilités quant à l'entretien des routes, et forcément nous nous retrouvons avec un tel réseau. Et il va falloir que la loi qui est votée soit complètement appliquée, avec une autorité administrative indépendante qui veille de manière très stricte au respect des lois par rapport à l'entretien des routes et à la responsabilité de chaque responsable au niveau local, au niveau communal, au niveau national et au niveau régional. Voilà ce qui est vraiment la base de la vétusté de nos routes aujourd'hui.
Ok, Monsieur Sidibé. Alors, je vous propose d'écouter Ibrahima Guindo, responsable communication Total Mali.
Les facteurs sont multiples. Hein. Il y a le problème de poids des camions. Alors, les camions qui sont naturellement très chargés, qui ne sont pas adaptés au type de route, qui sont ceux qui sont habituellement utilisés. Donc, le gabarit de ces véhicules-là est inadapté. Il y a une surcharge qui s'applique sur les endroits les plus sensibles donc, de ces routes-là, ça se dégrade. Il y a le fait qu'il y a des nids de poules, ce que nous appelons les black spots, que les gens ne respectent pas également et qui se trouvent surpris avec des excès de vitesse et qui amènent souvent les camions à quitter la route et qui dégradent davantage encore ceux qui étaient déjà en mauvais état. Globalement, il y a un problème de comportement au niveau de ces usagers-là, mais encore une fois, la conception d'une route dépend des moyens qu'on met à disposition des entreprises et puis de la politique de l'État en matière également de construction de ces routes-là. Une route qui est appelée à recevoir un certain nombre de véhicules par jour, si vous multipliez ce nombre de véhicules de façon substantielle, ben, il va de soi que la dégradation comment ça claire, quel que soit la qualité de la route. Nous demandons aux usagers, notamment les conducteurs qui travaillent avec les camions, d'avoir des comportements civiques, d'avoir des camions en bon état de fonctionnement, de respecter les limitations de vitesse qui ont été indiquées, d'avoir les repos obligatoires qu'on leur indique après 2 heures de conduite, de respecter les limites de vitesse, les limitations de vitesse.
Alors, Monsieur Meïga, certains accusent les gros porteurs, surtout concernant l'axe Bamako-Koulikoro, concernant la dégradation des routes. Et selon vous, est-ce que c'est l'une des causes principales de cette dégradation?
D'avis que le trafic est l'une des causes de dégradation parce que comme je vous l'ai dit, les routes sont dimensionnées pour un certain nombre d'années en fonction d'un trafic qui passe. Et comme quand on parle de trafic, il s'agit du nombre de sièges, c'est-à-dire le nombre de roues qui passent sur une route pour un nombre plusieurs fois. Malheureusement, il y a une réglementation aussi dans ce sens dans tous les pays de l'UEMOA, en plus des normes internationales. Et l'UEMOA, par rapport à cela, on a un règlement 14 qui devrait automatiquement être appliqué depuis 2005. Malheureusement, on est à notre quatrième ou cinquième tentative dans le 1er avril dernier. On devrait appliquer ce règlement qui limite la charge à l'étude et qu'on n'arrive pas à appliquer dans les pays de l'UEMOA. Donc, c'est un problème qui ne concerne pas seulement le Mali, mais tous les pays. Et c'est pratiquement l'une des causes principales de la dégradation de nos routes. Mais on arrive souvent à voir sur nos routes des camions qui ont jusqu'à 120 tonnes de poids, dont environ 25 tonnes à l'étude pour des routes qui ont été dimensionnées pour 11 à 12 tonnes à l'étude.
Mais pourquoi ces réglementations-là ne sont pas respectées?
La réglementation, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on a des usagers qui sont pratiquement plus forts que les différents États de l'UEMOA, pas seulement le Mali. Aujourd'hui, le cas particulier qui s'est posé en juin 2016, où on n'a pas pu appliquer le règlement 14 et en avril 2017, c'est dû au fait que les deux pays de où le Mali s'approvisionne, il s'agit de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Dans ces deux pays, ils n'ont pas accepté d'appliquer le règlement. Et malheureusement, si on n'applique pas là où on doit prendre les marchandises pour les amener au Mali, ces transporteurs ont eu à nous mettre devant les cartes. Si on était en avril à l'approche de l'hivernage et le Mali est en train de se faire approvisionner en maintra agricole, il y a aussi le mois de Ramadan, où on est en train de faire approvisionner en denrées alimentaires, vu ces différentes raisons qui ont été avancées par les transporteurs et les chargeurs, le Mali était obligé de s'aligner derrière les deux autres pays. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et du Sénégal qui se regardent. Parce qu'aujourd'hui, si le Sénégal l'applique et la Côte d'Ivoire ne l'applique pas, tous les transporteurs vont être basculés sur la Côte d'Ivoire et vice-versa. Donc aujourd'hui, si on doit appliquer le règlement 14, il faut l'appliquer dans tous les pays de l'UEMOA et ensemble et le même jour. Donc ce n'est pas seulement un problème qui est lié au Mali par rapport à l'application du règlement 14.
D'accord. Alors,
C'est des raisons économiques qu'il faut peut-être qu'on analyse ensemble.
D'accord. Alors, M. Touré, est-ce que vous partagez le même avis que M. Maïga concernant le non-respect de la réglementation?
Je partage quelquefois, parfois aussi, nous avons notre propre opinion. C'est que le règlement numéro 15, le règlement numéro 14, ou le numéro 14 dont il disait, ça c'est l'application du gouvernement qui doit être appliquée dans tous les 8 pays de l'UE. Nous ne partons pas avec ce terrain-là.
Mais quel est ce règlement d'abord?
Donc ce règlement, nous n'avons pas trop connaissance avec ce règlement, donc je vais pas trop m'aventurer sur ce règlement. Ce qui est pratique chez nous et ce qui est visible chez nous, c'est ce que nous voulons. C'est-à-dire, ici, c'est au Mali seul que vous voyez souvent, quelqu'un voulait peut-être traverser il veut faire son raccordement en courant ou en eau. Il vient avec ses pioches, il commence à creuser sur notre route qu'on a bien conçue. Et après, dès qu'il finit de faire passer son fil ou bien son raccordement, et voilà, la route va rester comme ça. Et le nombre de véhicules qui vont rouler dessus vont continuer à les dégrader, et ça va endommager toute la partie, sinon toute la route. Une fois qu'il y a un petit trou, dès que c'est pas fermé, et bien voilà, la dégradation commence aussitôt. Et le nombre de véhicules qui roulent dessus par jour continue, comme M. Guindo vient de le dire, il continue à les dégrader.
D'accord.
Donc il faudrait que ces comportements et certaines pratiques-là cessent ou qu'on ait une autorisation de le faire afin de le réparer correctement comme ça a été.
Alors Monsieur Touré vient de nous parler de l'article 15 ou 14. Alors qu'est-ce qui est dans cet article-là? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails concernant cet article de réglementation?
La réglementation 14, c'est un règlement, comme je l'ai dit, qui a été signé en 2005 par les différents gouvernements des 8 pays de l'UE chargés des transports et des infrastructures de transport. Et dans ce règlement, c'est relatif aux normes, à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle des gabarits des camions sur la route, qui précise le poids et la charge à l'issue des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États membres de l'UEMOA. Et par rapport à ce règlement 14, le nombre de chiens est limité. Il y a des camions qui peuvent aller jusqu'à 7 chiens. La hauteur des camions est définie. La largeur des camions est définie. Et en même temps, la charge maximale, si c'est un camion de 2 essieux, c'est un camion de 3 essieux, ou si c'est un camion de 7 essieux, la charge est définie. Et comme je vous l'ai dit, chaque essieu devrait avoir un poids maximal allant jusqu'à 12 tonnes par rapport à ce que dit ce règlement 14.
D'accord. Alors, Monsieur Sidibé, selon vous, est-ce que cette réglementation-là peut être appliquée au Mali?
Il faut quand même se poser une question. C'est une réglementation qui est communautaire, qui s'applique à des États qui n'ont pas les mêmes réalités économiques compte tenu de la réalité transport routier. Je m'explique. Quand vous appliquez une réglementation à un pays comme la Côte d'Ivoire, sous le transport routier, à un pays comme le Mali, sur le même transport routier, vous n'êtes pas du tout dans la même réalité économique. Et du coup, forcément, les États n'ont pas la même obligation en termes d'application de ce règlement. Aujourd'hui, économiquement, la Côte d'Ivoire a certes besoin de transport routier pour s'approvisionner, mais elle a plus d'autres moyens pour s'approvisionner aujourd'hui avec le transport maritime et même éventuellement le transport aérien un peu développé dans des pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Pour vous dire que si quelqu'un devrait se battre pour l'application de ce règlement, ce serait un pays comme le Mali qui est complètement enclavé. Ce règlement dit qu'il faut une harmonisation des gabarits à l'échelle des poids lourds sur les transports routiers. Nous savons bien que l'économie du Mali tient beaucoup au transport routier quant à l'approvisionnement des différents ports de l'espace urbain. C'est un pays, et des pays comme le Mali, le Burkina, qui doivent se battre pour ça. Et s'il y a une application qui devrait se faire dans un pays, c'est le Mali qui est parmi les pionniers à l'application de ce règlement. Et qu'on ne trouve pas l'excuse, ce n'est pas appliqué ailleurs. Nous, notre économie repose beaucoup sur le transport routier. S'il y a quelqu'un qui doit se mettre en ce règlement, c'est nous. Premier aspect. Second aspect, on se bat souvent pour les règlements chez nous. Mais il y a quand même une autre réalité chez nous qui est existante avant même la mise en place de ces règlements. C'est que nous avons une réalité qui est due au fait que nous n'avons pas un système de financement assez adéquat de nos routes. C'est quoi? C'est que c'est tout dernièrement qu'on a mis en place les péages pour pouvoir financer les investissements sur les routiers. Pourquoi nous ne développons pas ce système sur les grands axes routiers de notre pays pour que le pays puisse se doter de vrais fonds? Après, on pourra parler de la gestion de ce fonds quant aux investissements et de sources de financement pour nos routes. C'est là toutes ces questions qu'il faut se poser. La réglementation, elle est là. Il faut l'appliquer. Et nous devrons être les pionniers à l'appliquer parce qu'il y va de l'état de nos routes. Il y va de l'état de notre économie parce que nous, notre économie tient beaucoup au transport routier.
Mais Monsieur Sidibé, vous venez de parler de fonds tout de suite. Mais au Mali, pourquoi la plupart des routes se dégradent quelques années ou même quelques mois après leur construction?
Au-delà de toutes les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure, des raisons liées au trafic, du fait que nous n'avons pas un réseau très développé, du coup il y a une concentration sur certains réseaux, il faut quand même se dire que la construction de nos routes ne répond pas forcément souvent à certaines normes de construction quant au trafic qui est prévu. Monsieur Maïga disait tout à l'heure par rapport à l'axe Bamako-Koulikoro qui a une qualité de route qui doit être mise en place. Je suis d'accord avec vous, avec lui, que ça c'est vraiment en théorie. Mais en pratique, il faut aller voir concrètement qu'est-ce qui se passe sur le terrain en termes de qualité de route. Nos constructeurs de route ne répondent pas souvent aux normes. Et ce qui fait que vous avez l'axe Bamako-Koulikoro, il n'y a pas d'alternative d'autres routes alternatives pour aller à Koulikoro. De ce fait, s'il y a une concentration de route de trafic sur cette route, il y a forcément un besoin à ne pas seulement avoir une qualité de route qui soit classique. C'est une qualité de route qui va au-delà même de ce qui est classique. C'est d'avoir en tête que nous avons forcément une concentration de trafic sur cette route-là, qu'il faut augmenter la qualité de la route. Et ça, tant qu'on ne fait pas ça, et qu'on ne contrôle pas forcément les poids lourds qui doivent passer sur ces routes-là, nous sommes complètement dans une impasse dans laquelle nous ne pourrons pas sortir en termes de qualité de route, en termes d'entretien de route, en termes d'état de nos routes chaque année. Et c'est l'hivernage qui nous fait revenir à la réalité, alors qu'au-delà même de l'hivernage, il faut qu'on se pose toujours la question sur la qualité de nos routes.
Alors, Monsieur Maïga, Monsieur Sidibé vient de parler tout de suite de la qualité des constructeurs, des matériaux qui sont prévus pour la construction des routes. Selon vous, est-ce que la question qu'on doit se poser également, c'est est-ce que les matériels fournis pour les travaux de construction ou de réhabilitation de ces routes-là sont de bonne qualité?
Merci, madame. Il me semble que Monsieur Sidibé n'est pas au Mali ou que ça lui fait des mois où il ne part pas à Koulikoro. Je l'invite quand même à fournir un peu d'efforts pour aller faire un tour à Koulikoro. Il verrait l'entreprise qui est en train de réaliser les travaux. Il verrait les types de matériaux qu'on est en train de mettre en œuvre à Koulikoro. Le cas particulier de la route Bamako-Koulikoro, nous avons pris en compte le trafic. Ce n'est pas une route comme les routes ordinaires qu'on a construites ailleurs. C'est une route qui prend en compte le dimensionnement du trafic. Mais je dis que nous ne prenons pas en compte le trafic supplémentaire dû à la surcharge des transporteurs, mais le trafic qui peut être induit quand il y a le développement de la zone. Donc, on prend en compte avec des marges de surface. Et c'est pour cela que cette route, quand je l'invite à aller voir, nous sommes en train de faire un grand bitume en termes de matériaux de la croûte des bases. Je suis en train de parler un peu technique, mais il s'agit du bitume que nous sommes en train de faire en termes de couche de base. Et la couche de fondation est encore en grave lacrétie comme les routes ordinaires. Et sur cette couche de base sera mise après le bébé. Donc c'est vraiment un cas particulier au Mali qu'on est en train de faire et je l'invite à aller voir cette route. Et même pour d'autres qui sont à l'écoute, ils peuvent faire un tour à Koulikoro pour voir cette route.
Alors, Monsieur Touré, vous venez d'entendre tout de suite Monsieur Maïga. Est-ce que vous partagez son avis?
Je partage son avis puisqu'ils sont spécialistes en construction de routes. Ils ont tous les moyens et tous les matériels pour construire des routes de qualité. À ce qui nous concerne, nous, Association Serawa Lakana, c'est de veiller à ce que la route soit bien et qu'elle soit pratiquée de manière bonne. Nous sommes en train d'adhérer à un réseau qu'on appelle Tristar Coalition, la coalition des trois étoiles. C'est un réseau mondial. Je ne sais pas si le Mali est déjà membre. Je ne sais pas pour le moment, mais nous sommes en train d'adhérer. Ce réseau, c'est une façon de. C'est un réseau qui contrôle. Quand il y a construction de routes, ils vont sur place pour contrôler. Les routes sont catégorisées à trois étoiles. Donc, nous, dès que nous allons obtenir notre visa d'entrée, nous allons commencer à faire part à tous les constructeurs de routes qui se trouvent au Mali pour que désormais, s'il y a un sentier de route, qu'on puisse être avec eux et puis fournir aussi notre expertise en matière de contrôle de qualité.
Mais est-ce qu'il y a des experts en matière de contrôle de qualité, mis à part votre association que vous allez mettre sur place?
D'accord. Notre association, nous ne sommes qu'une association. Association à un niveau très limité. Mais je crois qu'il y a une entreprise de contrôle qui est au Mali, qui contrôle toutes les routes qui sont en sentier.
Mais est-ce que vous allez travailler en collaboration avec eux?
On a eu déjà travaillé avec eux à Sikasso sur une route longue de 42 km. Donc j'avoue qu'ils ont les moyens, ils ont la technique. Ils ont aussi l'expérience en matière de contrôle. Et tout récemment, j'ai vu qu'ils ont reçu un prix de la CEDEAO, en matière de qualité et de travail bien fait.
Mais quel est le rôle de l'autorité routière?
L'autorité routière, bon, c'est ça, je ne suis pas bien placé pour répondre à cette question. Je crois que si on avait eu peut-être un de leurs, il allait plus nous expliquer.
Alors, je retourne la question à Monsieur Maïga. Quel est le rôle de l'autorité routière?
Le rôle de l'autorité routière, c'est une structure qui a été créée suite à la récupération de la Direction nationale des travaux publics en 2002 et qui est là pour la collecte des ressources pour l'entretien routier et pour financer les travaux de l'entretien routier. Comme je vous l'ai dit, moi je suis de la Direction nationale des routes, je suis le directeur du service des données routières, c'est un service qui est lié à la Direction nationale des routes. Nous sommes les maîtres des ouvrages dans le cadre de l'entretien routier. Mais il y a aussi l'Ageroute qui est une agence de mise en œuvre des travaux d'entretien routier. Donc c'est une précision que je voulais quand même vous donner. L'autorité, c'est juste pour financer et collecter les ressources liées à l'entretien routier.
Alors nous allons observer une courte pause avant de nous retrouver sur ce plateau.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani.
Ce soir, nous débattons sur la dégradation des routes. Nos invités sur ce plateau, Al-Maimoun Meiga, directeur du service des données routières, Mokhtar Moussa Touré, président de l'association Siraba Lakana, Moussa Sidibé, chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale, CRAPES. Alors, en février, il avait été dit que la somme de 215 milliards sera débloquée pour la réhabilitation de la route Sévaré-Gao-Bourem-Kidal sur 844 kilomètres. Alors, Monsieur Meiga, où en sommes-nous avec ce projet?
Madame, par rapport à ce projet, je ne pourrais pas me prononcer. Comme je vous l'ai dit, je suis de la Direction nationale des routes, mais je suis directeur d'un service rattaché à la Direction nationale des routes. Il y a une autre direction qui s'occupe des travaux neufs. Mais ce que je peux vous dire concernant la route de Sévaré-Gao, nous avons un programme d'entretien routier sur cette route qui est différent des travaux de construction, sachant bien que c'est une route qui a largement dépassé le niveau d'entretien routier, mais on est obligé d'intervenir là-dessus pour maintenir le trafic. Et pour cela, cette année, nous sommes allés dans une option, compte tenu aussi de la situation sécuritaire dans la zone, à confier les travaux au génie militaire pour pouvoir intervenir sur cette route. C'est une structure de l'armée qui fait des travaux.
Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les sommes qui sont déboursées chaque année pour la construction des routes au Mali?
Les sommes qui sont débloquées chaque année pour les routes, c'est pour pouvoir construire des routes. Il y a déjà des projets qui sont en fonction des différentes planifications. Dès que, en fonction des planifications, des travaux démarrent et les ressources pour pouvoir payer les prestataires.
Mais est-ce que vous avez un montant pour nous qui est déboursé chaque année pour la réhabilitation de ces routes?
Je peux vous donner à peu près les montants que nous avons pour l'entretien routier. Comme je vous l'ai dit, la Direction nationale, c'est une grande structure qui s'occupe de la construction des routes et de l'entretien routier. Moi, je suis du côté entretien routier. Là, je maîtrise les chiffres, mais du côté construction, je ne maîtrise pas les chiffres.
Allez-y. De votre côté, combien? Oui.
En 2017, nous avons un montant d'environ 24 milliards et demi pour l'entretien routier de l'ensemble du réseau du Mali.
De l'ensemble pour du 2017. Réseau pour uniquement 2017?
Pour uniquement 2017.
Et en 2016, vous avez les chiffres?
En 2016, on était autour de 32 milliards de francs CFA.
D'accord. Alors, Monsieur Sidibé, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres déboursés chaque année pour la réhabilitation des routes du Mali?
Avant de revenir à la question, je voudrais juste apporter une certaine précision à propos de M. Maya en disant que même si je ne suis pas au Mali, je travaille sur le Mali.
Monsieur Sidibé, nous allons revenir à vous tout de suite. Alors, Monsieur Touré, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres?
Bon, ces chiffres, nous sommes en train d'observer. Et nous venons d'entendre les chiffres, donc nous allons prendre acte de ces chiffres-là. C'est énorme. Vous convenez avec moi que c'est vraiment beaucoup de l'argent qui est en train de s'investir chaque année pour l'entretien routier. Et je vais toucher un peu la route Sévaré-Gao. La route Sévaré-Gao qui est vraiment quasi inexistante, c'est une route carrément effacée. Donc, quand on parle d'entretien, nous sommes très mal à l'aise. C'est une route que j'ai fait au moins 4 fois. Donc, je connais carrément l'état parfait de cette route-là. C'est quasi inexistante. Donc, pour se rendre à Gao aujourd'hui, c'est mieux aller en France en véhicule, si je peux m'exprimer ainsi, que d'aller à Gao en véhicule.
D'accord. Alors, Monsieur Sidibé, ces fonds sont-ils utilisés comme ils se doivent?
Je n'ai pas bien compris la question, en fait.
Oui, je disais que M. Maïga nous a parlé des fonds déboursés en cette année 2017 et 2016 concernant la réhabilitation des routes. Je vous demandais si vous étiez d'accord avec ces chiffres ou est-ce que ces chiffres sont-ils, ces sommes sont-ils utilisées comme ils se doivent?
Déjà, c'est au niveau de M. Maïga de nous dire si les chiffres sont bien utilisés. Déjà, moi, je me suis surtout posé la question, quelle pourrait être l'explication de la baisse du montant d'entretien du réseau routier? Ça, c'est quand même une explication à pouvoir donner à vos auditeurs qui pourrait venir de M. Maïga. Au-delà de ça, je pense que c'est quand même un montant important qui est débloqué chaque année pour l'entretien de nos réseaux et que nous nous retrouvions aujourd'hui toujours avec un réseau aussi dégradé. Monsieur Maïga pourra aussi nous expliquer qu'est-ce qui est à la base du fait qu'au-delà de ce montant colossal qui est déboursé, pourquoi nos routes sont encore dans cet état assez dégradé. Voilà. Moi, de mon point de vue, je pense que d'une part, le montant il n'est pas forcément suffisant, c'est clair et net. Deuxièmement, je pense qu'il n'y a pas forcément une bonne gestion en termes d'investissement dans l'entretien routier. Il faut aller voir en termes de rigueur de la gestion et d'investissement dans l'entretien routier si c'est bien fait et si c'est efficacement fait. Et pour revenir à la question de la route de Koulikoro, il est quand même bien dommage que M. Maïga reconnaisse qu'ils n'ont pas pris en compte le développement du trafic qui sera fait suite à la construction de la nouvelle route. Ce qui fait qu'obligatoirement, nous allons avoir une donnée supplémentaire sur le trafic. Et s'ils ne tiennent pas compte de cela, sur la qualité de la route, forcément, nous avons une cause principale de la dégradation de la route qui est déjà annoncée par M. Maïga dans ses propos. Voilà des questions qui me viennent en tête quand j'entends souvent des propos de M. Maïga.
Alors, M. Maïga, qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport aux questions de M. Sidibé?
Ok. Merci, madame. Je remercie M. Sidibé pour cette question qui me permet de lui donner plus de clarification. Mais si vous le permettez, pour le cas de Touré, si je peux répondre d'abord à Touré avant de répondre
allez-y.
À Sidibé. Oui. Parce que Touré avait posé aussi la question des montants énormes pour entretenir. À titre de rappel, je vous informe qu'on avait un besoin de 80 milliards pour l'ensemble de ces routes. Malheureusement, l'autorité n'a pu mobiliser que 24,5 milliards en termes de ressources qui seront affectées à l'entretien routier. Je profite pour vous dire que les routes, comme je vous l'ai dit, dès qu'elles sont construites, je vous ai dit tantôt que c'est pour un nombre d'années et par rapport à un trafic qui doit normalement rouler sur ces routes. Donc, avec l'âge, la route se dégrade. Mais aujourd'hui, en prenant le cas de la route Sévaré-Gao, on ne peut pas aussi laisser la route comme telle et ne pas intervenir. Aujourd'hui, l'entretien n'est pas la solution, mais nous ne pouvons pas laisser la route comme telle et qu'il y ait une rupture de trafic sur ce tronçon. C'est pour cela que nous intervenons. Et je vous ai dit que le département est allé jusqu'à saisir le service du ministère de la Défense pour que ça soit désormais, au lieu de confier même aux entreprises privées de la place, que nous allons confier au génie militaire pour que les travaux puissent être réalisés dans certaines conditions de sécurité, pour que les travaux puissent être réalisés. Parce que peut-être ce que tout le monde ne sait pas, nous avons perdu notre directeur régional sur cette route dans le cadre du suivi des travaux d'entretien routier. Malheureusement, l'année dernière encore, le directeur régional a été aussi enlevé sur le même tronçon pour des questions de sécurité. On ne sait pas ce qui est lié à cela, mais c'est quand il part pour voir les entreprises, les conditions dans lesquelles les entreprises travaillent pour que les travaux puissent être réalisés dans les règles de l'art. Et c'est dans le cadre de ces missions qu'ils sont victimes de ces enlèvements ou des attaques. Et voilà pourquoi on est parti vers le génie militaire et tout ça, parce qu'on est conscient de la qualité du service que nous devrons offrir aux usagers de la route et particulièrement de la route Sivare et Gao. Quand je reviens par rapport à la situation des baisses des montants, nous avons des besoins. Je vous ai dit qu'on a un besoin de 80 milliards. Malheureusement, on n'a pu mettre à notre disposition que 24 milliards. Nous avons sollicité qui de droit à travers le département pour leur dire que ces ressources mises à notre disposition ne permettent pas aujourd'hui de donner aux routes un niveau de service acceptable. Et sachant bien l'âge moyen de nos routes, toutes nos routes aujourd'hui au Mali ont dépassé 10 ans. Si je crois que Touré doit être du domaine des routes, au bout de 7-8 ans, il faut aller à leur entretien périodique, leur réhabilitation ou leur renforcement. Et c'est dans ce cadre-là que toutes ces routes ont dépassé, mais ils sont obligés de faire des travaux encore plus importants sur ces routes. La stratégie que le département a eu à prendre en 2017, particulièrement, c'est des travaux de pluriannuels qui vont s'étendre sur 2017 et 2018 pour pouvoir maintenir les entreprises sur ces routes qui ont un âge très avancé et pour pouvoir intervenir à tout moment et qu'on puisse améliorer le niveau de service avec les ressources dont nous disposons.
D'accord.
Je reviens par rapport au cas du trafic de Koulikoro. Il me semble que M. Sylvain ne m'a pas compris. J'ai dit que nous avons pris en compte le trafic induit, c'est-à-dire avec le développement. Et nous savons que cette route de Bamako-Koulikoro, en réalisant cette route pour un usager et avec la construction du pont à Koulikoro, les usagers, tous ceux qui sont de la rive gauche, ont l'avantage de passer par cette route de Koulikoro que d'utiliser le troisième pont ou le pont des Martyrs pour pouvoir aller à Ségou. Les gens qui vont, après la construction de la route de Nyono jusqu'à Tombouctou, les gens qui viennent, qui doivent aller à Tombouctou ont intérêt à passer par Koulikoro et en passant par Banamba, Nyono, pour pouvoir aller à Tombouctou. Donc ça va induire, donc tout ce trafic, nous l'avons pris en compte. Mais je disais que le trafic que nous n'avons pas pris en compte, c'est le trafic anormal qui est dû à la surcharge. Donc ce trafic, nous prenons, c'est vrai que j'ai dit que la charge à l'essieu c'est 12%, mais en faisant les dimensionnements, on part jusqu'à 15 tonnes. Mais aujourd'hui, le trafic qu'on trouve au niveau de nos statistiques, il y a certains usagers qui ont jusqu'à 20-25 tonnes à l'essieu. Ce qui n'est vraiment pas normal. On ne peut pas aujourd'hui dimensionner les routes en allant jusqu'à 25 tonnes à l'essieu.
D'accord,
dans
monsieur.
Pays du monde, on ne peut prendre ça en compte.
Ok, merci bien, voilà. Monsieur Mega. Alors, en 30 secondes, monsieur Touré, pouvez-vous nous dire quelles sont les attentes de la population pour pouvoir circuler en toute tranquillité?
Et merci, je vous remercie encore une deuxième fois. Les attentes de la population, c'est d'avoir une route de qualité, une route en bon état pour pouvoir rouler, aller se rendre dans son lieu et revenir en sain et sauf. Voilà notre combat aussi, nous qui sommes auprès de la population, qui faisons des campagnes de proximité. C'est que nous aussi, nous invitons les usagers à une bonne utilisation de ces routes-là. Les routes sont bien confectionnées souvent, mais c'est nous, par notre comportement, qu'on les dégrade. En faisant des trous ou en faisant passer des fils de raccordement, c'est par ce comportement que nous sommes en train de dégrader les routes. Au Mali, chacun se lève, prend sa pioche, je reviens là-dessus, il creuse, il se dit, il va se faire ce qu'il voulait. Donc il faudrait que ces pratiques-là, que ça cesse. Et pour que ça cesse, il faut carrément la répression, il faut que l'autorité se mette à sa place, que les communes aussi ils prennent leurs responsabilités.
D'accord. Merci bien, Monsieur Touré. Cela met fin à ce débat qui portait sur la dégradation des routes. Merci de l'avoir suivi et un grand merci à nos invités. Al-Maimoun Meiga, directeur du service des données routières, Mokhtar Moussa Touré, président de l'association Sira Balakana, Moussa Sidibé, chercheur au Centre de Recherche et d'Analyse Politique, Économique et Sociale CRAPESA. À la présentation, Fatmata Togola, la mise en onde de Salim Duara, à la régie vidéo, Mamadou Ouattara, c'est une réalisation et une coordination de Mohamedou Touré.
le grand dialogue.
Sigi Kafoba
et Dewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Mandi.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.